L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain.
L'autre soir, à la télé, sur le plateau de Laurent Ruquier, il y avait ce truculent et iconoclaste personnage qui vient juste de sortir un bouquin de souvenirs et d'anecdotes relatifs à sa déjà longue carrière de cinéaste. J'ai nommé Jean-Pierre Mocky. Voilà, n'est-ce pas, un bonhomme qui, comme on dit, n'a pas la langue dans sa poche, qui a commis des dizaines de films, des très bons et des moins bons, à la gloire de la flibuste, du chambardement de toutes les vieilles valeurs, du refus de toutes les compromissions, enfin, un cinéma en dehors des sentiers battus, où la dérision et la moquerie prennent la place des slogans faciles et rabâchés des films militants. À propos desquels, il est bon que l'on s'interroge ne serait-ce qu'un peu. Après Al Gore et Artus Bertrand, voici donc notre bon petit Nicolas, Hulot et pas Sarko ni l'autre de Goscinny et Sempé, en passe d'encore une fois nous alerter des terribles conséquences de notre aveuglement eu égard au réchauffement climatique et autres périls subséquents. Cela à quelques semaines du sommet de Copenhague où devraient se décider les nécessaires orientations et décisions en rapport avec cet épineux dossier. Une des questions que nous serions en droit de nous poser est de savoir si, du côté des décideurs de haut niveau, comme de celui de ce monde si charmant et si rempli d'attentions de toutes sortes qu'est celui des grandes entreprises et de leurs actionnaires, il se trouve des gens qui prennent le temps d'aller voir de ces films catastrophes nouvelle manière. Si c'était le cas, nul doute que ces braves gens sortiraient de ces projections avec au minimum quelques doutes sur les conséquences de leurs multiples activités. Mais comme il paraît bien que rien ne change dans ces milieux et que la frénésie de l'argent soit plus que jamais d'actualité, on peut bien penser que toutes ces questions ne les touchent que dans la mesure où, précisément, il leur serait loisible de les convertir à leur profit. Il se trouve d'ailleurs de vaillants industriels pour avoir déjà et à vaste échelle compris les bénéfices qu'une telle conversion pouvait leur assurer. Il n'est que de voir la manière dont la couleur verte, toutes nuances confondues, a envahi en un temps record tous les domaines possibles et imaginables de la néocommunication marchande, de la bagnole au yaourt allégé, en passant par les fringues, les banques et l'énergie nucléaire. Les panneaux et les spots publicitaires vomissent littéralement les mêmes insipides et mensongères incantation à la nature, devenue, comme par magie, l'allié privilégié et fidèle du capital. Et dans un même mouvement, les spécialistes patentés, garantis par le pouvoir et le garantissant, y vont continuellement d'un même et indigeste discours au centre duquel, trônant comme un sombre et permanent présage, un insaisissable petit mot de 5 lettres provoque et entretient durablement la consternation et l'approbation muette des foules. Comme la peste, la lèpre et le choléra chez nos lointains ancêtres, la crise, oui, c'est bien elle, terrifie, paralyse et hante les consciences muettes auxquelles manquent les mots pour seulement pouvoir reconnaître et nommer la véritable nature de l'étrange fléau qui a toutes les apparences d'un spectre venu dans ses eaux. Et si les mots, le langage, la pensée critique ont ainsi disparu de la surface de ce monde désolé, ce n'est que parce que ce mot fatidique est un mot et seulement un mot. Comme le dit très justement et joliment Éric Chauvier, je cite, « La crise existe comme les monstres sous les lits des enfants ». Fin de citation. Et ce monstre nébuleux est en réalité le concentré de tout ce que cette époque produit comme mensonge, comme infamie, comme abyssale cruauté qui partout se répandent et s'accablent des millions et des millions de vies. Ce n'est qu'en nous réappropriant le langage qui nous a été strictement volé et confisqué que nous serons à même de nous déprendre de ce commode repoussoir. Ce n'est qu'en reprenant possession des mots, en formulant des idées vraies, c'est-à-dire pratiques, que nous reprendrons possession de nous-mêmes et pleine possession de nos destins individuels et collectifs. Souvenez-vous des foules déterminées et graves à Leipzig et à Berlin il y a 40 ans qui faisaient face à la police et à l'armée et qui scandaient ces simples mots « Wir sind das Volk », »« Nous sommes le peuple ». Un peu après, le mur tombé, d'autres murs sont là et c'est à nous, maintenant, qu'il appartient de les abattre. À la semaine prochaine.